parce que j'ai toujours l'impression que cette question de discipline, mettre les limites, etc., c'est quelque chose qui travaille bien la plupart des parents. Donc, je ne sais pas s'il y aura maintenant, quand on a eu le temps de réfléchir, encore un commentaire, une question ou quelque chose. C'est difficile d'expliquer tout un sujet dans peu de temps, je trouve. Parce qu'on est toujours, on essaie toujours de trouver un équilibre. On essaie de trouver un équilibre entre donner un maximum de liberté et compréhension possible et d'avoir des limites claires et d'amener un ordre clair à l'intérieur du déroulement de la famille. Et de trouver un équilibre qui maintient ces deux choses en évidence n'est pas du tout simple. Et bien des choses, voilà, on foire un peu, on fait aussi nos erreurs au niveau des comme parents, et ce n'est pas évident. Et on ne se rend pas toujours compte qu'on éduque nos enfants pour le bien. Bien des fois, on tombe un peu dans le panneau, on dit voilà, on met des limites pour notre propre confort. Voilà, c'est mieux que les enfants ne crient pas pendant que je regarde la télé. Donc voilà, on impose une discipline. Et en fait, ce n'est pas pour eux, c'est pour nous. On est gênés parce qu'ils ne se portent pas bien pendant qu'on est en visite. Donc nous, on est gênés. Donc on met une discipline. Et finalement, on se rend compte qu'on est en train de les discipliner pour nous. Ou dans le fond, on a besoin de les discipliner pour eux. Parce qu'ils ont besoin pour bien grandir. Et donc, un enfant, effectivement, a véritablement besoin des limites pour grandir, parce que s'il n'y a pas de limites, il ne peut pas foncer contre. Il a besoin de foncer contre. Donc, si je tire une ligne dans le sol, ici, et je dis aux enfants, voilà, vous pouvez sauter et sauter jusqu'à la ligne, ils ne vont pas sauter juste un peu. Ils vont essayer de sauter jusqu'à la ligne. Donc, ils vont toujours foncer contre ces limites. Et c'est bon pour eux. Parfois, ils se font mal si la limite est assez intransigeante, mais c'est bien. C'est cette idée de dire, voilà, il y a une limitation, ça, c'est utile. Donc, on le fait pour eux, le bien. Je trouve que garder cette idée en tête est valable. Notre autre problème, c'est de comprendre pourquoi l'enfant n'arrive pas à respecter les limites ou de se comporter d'une manière qu'on considère convenable. Il y a plusieurs raisons, mais il y a toute une série de choses qui font souvent que les enfants n'arrivent pas, et bien des fois, on les ignore. Ils sont relativement simples. Et quand j'ai des couples qui arrivent, au niveau des questions pour leurs enfants, je passe toujours une certaine série de questions pour savoir ce qui se passe, pour véritablement savoir s'il y a un problème ou pas. Et mes questions sont très simples. La première question que je pose, c'est de dire, est-ce que l'enfant il boit assez? Et on est étonné de comprendre à quel point, pour plusieurs enfants, ils ne sont pas assez hydratés ou ils s'hydratent des choses qui sont juste trop stimulantes, sucrées, remplies de colorants, etc. Et ça les excite. Et pour un certain nombre d'enfants, effectivement, certains colorants, certaines choses qui sont à l'intérieur, tout simplement pour conserver, ont un effet excitant sur l'enfant. Donc ma première question, c'est toujours combien il boit l'enfant ? Pour voir, et la plupart du temps, si vous regardez un enfant dans le bus ou ailleurs qui commence à être problématique, un bon nombre de fois, l'enfant a soif. Il ne l'exprime pas. Il exprime sa soif en étant désagréable et difficile. Mais dans le fond, il a soif. Et si on peut répondre à ça et veiller à ça, on élimine tout de suite une bonne quantité de situations difficiles. Deuxième, est-ce qu'il a bien dormi? Donc, on constate, les statistiques nous disent aujourd'hui qu'en général, les petits-enfants, Ils dorment 1 à 2 heures de moins par jour de ce qu'ils ont véritablement besoin. Et ça pour bien des raisons, entre autres parce que les parents travaillent, ils doivent les relever tôt, etc. Ou ils restent tard le soir parce qu'on vient à des soirées comme ici, et finalement c'est 10h30 qu'on arrive à la maison. Non mais c'est vrai, hein, la vie, vite, on a grignoté des heures de sommeil, et à un moment donné, l'enfant il ne peut plus. Donc il a sommeil, un enfant en sommeil, tu disciplines comme tu veux, ça ne marche pas. C'est aussi simple que ça. Donc cette question du rythme, du sommeil, il est véritablement sûr que l'enfant a bien dormi et à son rythme, ça devient important. Donc c'est deux facteurs de base, mais difficiles à accomplir, on les loupe souvent. Le troisième, c'est que est-ce que l'enfant dépense physiquement suffisamment? On a beaucoup de parler aujourd'hui au niveau de problématique de nombre d'heures de télévision cumulées par les enfants. Et on dit, mais voilà, c'est pas bien la télé, quelque part, c'est vrai. Il y a une sorte de difficulté, mais le problème, véritable problème avec la télé, n'est pas tellement ce qu'on voit, mais ce qu'on ne fait pas pendant qu'on voit la télé. Et à part la créativité, etc., une des choses qu'on ne fait pas, c'est de bouger. Donc l'enfant qui ne bouge pas suffisamment dans la journée, ne dépense pas son énergie, va être un enfant problématique. Il va être difficile. C'est pas plus compliqué que ça. Donc on a véritablement besoin d'être sûr qu'il a bien utilisé son énergie. Et même dans les situations d'école, etc., bien des fois, garderie, tout ça, voilà, c'est beaucoup d'efforts pour les personnes qui travaillent d'avoir des enfants en activité physique tout le temps. Donc, ils ont tendance aussi à l'éviter. Donc, on crée une situation trop statique pour l'enfant. Donc, s'il n'a pas bu, pas dormi, il n'a pas dépensé son énergie, on a un enfant tout à fait normal qui devient problématique. Et on n'a pas besoin de chercher plus loin. Donc on n'a pas besoin de penser c'est un problème de discipline. Dans le fond, ce n'est pas un problème de discipline. Je vous mets dans les mêmes situations. Vous n'avez pas bu, vous n'avez pas pu dormir bien, et en plus, vous étiez assis dans un endroit toute la journée. Vous êtes problématique. On est la même chose, et un enfant encore plus sensible. Donc, ces choses de base, maintenant, on rajoute le côté émotionnel. Est-ce que l'enfant a suffisamment un sentiment de contact proche avec les parents et de sentir aimé? Que souvent, pour l'enfant, veut dire de sentir proche physiquement ou d'avoir un bon contact visuel, d'avoir du temps, de jouer à quelque chose. Donc, c'est cette idée d'une proximité, d'être satisfait quelque part, donc ce besoin de contact devient important. Et effectivement, de nouveau, on le constate bien, pour un bon nombre d'enfants, ils n'ont pas accès à suffisamment de bons contacts. Et la télé, effectivement, de nouveau, ce n'est pas la télé le problème, c'est le contact qui manque pendant qu'on est devant la télé. On a cette difficulté-là. Donc, c'est complexe parfois de dire, mais je n'ai pas le temps, même s'il y a un programme même intéressant pour l'enfant, de dire, je n'ai pas le temps de m'asseoir à côté de l'enfant pour voir ce programme avec lui. J'ai d'autres choses à faire. Mais dans le fond, de s'asseoir proche avec lui pour regarder quelque chose, c'est un temps de vraie qualité pour l'enfant aussi. Ça peut jouer à ça. Donc, de nouveau, on a besoin de considérer est-ce que ce besoin au niveau de l'enfant est satisfait ou pas. C'est uniquement une fois qu'on a satisfait ces besoins de base que nous pouvons véritablement poser la question, est-ce que l'enfant a un problème de discipline? Parce que si ces facteurs ne sont pas comblés, on sait qu'il a un problème de comportement. C'est naturel et c'est normal. Donc, on essaie de le faire. Et après, on va poser certaines questions par la suite. Surtout, est-ce que l'enfant souffre de quelque chose? Est-ce qu'il y a une allergie? Est-ce qu'il y a une douleur quelque part qu'on n'a pas pu comprendre ou identifier qui lui gêne? Est-ce qu'il y a quelque chose qui se passe dans ce sens? Et un peu plus loin, on va poser la question, voilà, est-ce que l'enfant a quelque part une sorte de pathologie qui fait qu'il a des difficultés de compréhension ou des difficultés de lecture ou des difficultés relationnelles, style Asperger, etc. Et un certain nombre d'enfants, pas un grand nombre, mais un certain nombre d'enfants vont tomber dans cette situation. Probablement, on pourrait même dire un enfant sur 20 va avoir certains symptômes, certaines choses où on dirait, voilà, il a peut-être besoin d'une certaine aide un peu plus spécialisée dans un certain domaine. C'est tout à fait faisable. Et donc, une fois qu'on a éliminé les choses de base, on peut poser la question un peu plus loin parce qu'on ne veut pas louper si notre enfant a besoin d'une aide particulière. Le plus tôt qu'on commence à aider un enfant qui a une certaine pathologie, une difficulté, un syndrome, le mieux que l'enfant va s'en sortir à long terme. Donc on ne veut pas découvrir ça 5 années plus tard. On veut être conscient le plus vite possible et d'agir. Et comme ça, on fait du bien pour l'enfant. Mais c'est sûr qu'on ne peut pas même discerner facilement un problème plus loin si on n'a pas comblé les choses de base qui sont nécessaires. Et une fois qu'on a comblé ces choses de base, de mettre des limites, discipline, etc., ça devient beaucoup plus simple. La discipline avec un enfant en bonne santé, qui a bien dormi, bien mangé, bien bu, et qui a son réservoir émotionnel rempli, la discipline devient beaucoup plus simple. Ce n'est pas de toute évidence. Il y a toujours des débordements. Et ça, c'est le normal de l'enfant. Le fait que l'enfant va tester à fond les limites, c'est une preuve de sa normalité. Si vous avez un enfant qui est assis au milieu du salon toute la journée, et qui ne fait jamais rien à travers, vous avez de nouveau un enfant à problème. Il y a une difficulté. Donc, on veut quelque part que nos enfants sont actifs et qu'ils poussent les limites et qu'ils testent les choses et qu'ils essayent. C'est une bonne nouvelle. C'est juste difficile à vivre parfois, n'est-ce pas? Mais c'est absolument nécessaire. Donc, l'enfant, quelque part, qui ne se fait pas de mal en jouant, il ne joue pas assez fort. Donc, on veut quelque part qu'il se pousse à l'extrême. C'est comme ça qu'il grandit. C'est normal et fonctionnel. Donc voilà, je voulais juste revenir un tout petit peu sur certaines de ces choses pour dire, voilà, on a tout un contexte à mettre ensemble. Ces limites sont valables. On essaie d'être des bons parents. Mais finalement, la relation, ça reste primordial. J'avais à un moment donné, je me suis rendu compte qu'en mettant nos enfants au lit le soir, c'est vrai que bien des fois, on a besoin comme parents aussi de demander pardon aux enfants parce qu'on ne les a pas écoutés, on a fait un jugement trop vite, on a fait quelque chose à travers, on n'a pas respecté nos propres consignes, voilà. Il y a des choses qu'on a faites et on a besoin de parler. Mais je me suis aussi rendu compte que j'avais besoin aussi de les libérer et de prendre l'occasion de les dire, mais je te pardonne. Aujourd'hui, je te pardonne. Parce que je me suis rendu compte que les enfants restaient en eux, bien des fois, avec une sorte de sentiment de culpabilité, qui était bien parfois même pas vrai, mais dans l'imagination quelque part, qui mettait une certaine barrière au niveau de la relation. Et j'avais besoin vraiment de les libérer régulièrement et sans savoir ce qui se passait dans leur tête, de les dire, mais tu es complètement pardonné, je t'aime, je te le libère, c'est tout bon. Et cette notion-là, quelque part, ça les aidait à mieux mettre de l'ordre dans leur tête. C'était possible de finir la journée et d'aller plus loin. Et peut-être nous aussi, parfois, on est comme ça, n'est-ce pas? On a une conversation avec quelqu'un, ou même avec voilà, notre époux, épouse. Et finalement, à la fin de la journée, on n'est pas trop sûr si les choses sont vraiment bien ou si on a fait quelque chose de mal ou pas. On a aussi parfois besoin d'être libéré et de savoir que tout est OK. Et les enfants aussi font comme ça. Bien, j'ai trop parlé. Est-ce que quelqu'un a un commentaire, question, quelque chose à relever sur n'importe quoi qu'on a traité aujourd'hui ou même une autre fois? Oui. C'est juste. Exactement. Exactement. Oui, c'est ça. Juste. Ou même manger une Snickers, n'est-ce pas? C'est ça. Aussi. Juste. Oui. Oui. Oui, c'est un bon commentaire. On est des grands enfants aussi. Oui. Oui. Merci. On n'a pas. Oui, dis. Non, on n'a pas beaucoup parlé. La famille, ça pourrit, mais oui. Oui, c'est juste. Je ne sais pas s'il y a une clé, parce que les familles sont assez diverses pour les raisons qui ne s'entendent pas. Une des choses qui est très utile dans une famille, je ne sais pas, certains peut-être ici ont déjà suivi, on fait une petite journée sur la question de la compréhension de la personnalité. Et de comprendre la personnalité des parents, mais aussi des enfants, est très utile au niveau de la compréhension de pourquoi certains malentendus ou certaines tensions sont typiques à l'intérieur de ces relations. Et finalement, ça revient à une question tout simplement de personnalité et de manière de faire, que voilà, le fonctionnement est différent. Et parfois, juste de le comprendre et de voir comment ça se passe, ça peut beaucoup aider, effectivement. Mais c'est clair que, quelque part, même la Bible nous le dit, les frères sont faits pour la guerre, n'est-ce pas ? Il y a un sens que, voilà, s'il y a un endroit où je peux avoir une bataille, c'est à la maison. Et quelque part, c'est valable, ça, mais ça peut être usant pour tout le monde. Donc, de nouveau, je crois qu'une des clés pour moi, c'est tout simplement de savoir où est-ce qu'on met les limites à ça et comment est-ce qu'on donne l'occasion pour les enfants d'exprimer le problème, la difficulté, le sens d'injustice, c'est souvent ça, qui est au fond de ces choses. Voilà, ils ont l'impression que l'autre est traité différemment ou a fait quelque chose, ou etc. Et donc, évidemment, émotionnellement, ils ne sont pas à l'auteur pour tout gérer. Donc, on a besoin de les aider à évacuer et de faire. Mais en même temps, c'est toujours difficile de dire, voilà, à quel point je dois intervenir, à quel point il faut que je laisse aller un peu. Et finalement, ça fonctionne. Ça, c'est très individuel. Mais je trouve que si nous, comme parents, on est en train de dire, je suis usé à cause des polémiques qui se passent à l'intérieur de la vie des enfants, effectivement, à ce moment-là, il faut vraiment décider d'agir et de faire quelque chose parce que notre propre survie est en doute. Et à la limite, si on n'arrive pas, il faut consulter. Bien des fois, une bonne idée, c'est d'aller voir quelqu'un qui a une vue d'extérieur sur la famille et de pouvoir dire, OK, qu'est-ce qu'on fait? Parfois, on le fait, hein, de temps en temps, on a accueilli des familles ou tout simplement, on fait quelques semaines de rencontres pour essayer de traiter des situations de famille et de faire sortir le fond des choses, de pourquoi, quelqu'un agit d'une certaine façon. Et ces façons-là peuvent être multiples. Ça peut être personnalité, mais à l'autre extrême, ça peut être quelque chose que l'enfant a vécu. Un enfant, par exemple, qui a vécu un abus à l'école peut devenir un enfant agressif à la maison. On ne connecte pas forcément les deux, mais une fois qu'on commence à creuser, on se rend compte que le problème est enfoui et ça ressort de complètement une autre manière désagréable. Donc on a besoin parfois de creuser un peu, de savoir ce qui se passe. Mais je ne sais pas s'il y a une seule solution. Les familles sont multiples, différentes. Mais ici, on est usé et on n'arrive pas à solutionner relativement rapidement. Je trouve que consulter, faire quelque chose, ça peut être très utile, très valable.
Oui,
ouais. Ouais. C'est bien. Une des choses qu'on remarque avec des familles, c'est que malgré le fait qu'à l'intérieur, ils peuvent avoir un conflit, le moment qu'ils ont un ennemi en commun à l'extérieur, il a la solidarité. Même avec les parents. Ça, c'est très bon signe. C'est très bon signe. C'est... Alors, si par contre, il y a un ennemi externe, mais il n'y a pas de solidarité, on pose plus de questions. C'est évidemment quelque chose qui a plus de profondeur. Donc, en quelque sorte, malgré le fait que c'est parfois difficile, on doit se rendre compte que la maison, c'est l'endroit le plus sûr pour lutter, pour bagarrer. Voilà, c'est pas toujours mauvais. L'autre sujet qu'on n'a pas touché, et je trouve que ça mérite quelques mots, c'est la question de discipline physique. C'est relativement tabou dans bien des situations. Ce n'est pas illégal pour l'instant en Suisse. Dans des autres pays, effectivement, ça commence à être particulièrement mal vu. Mais aujourd'hui, on vit quand même des situations où s'il y a un soupçon de maltraitance physique, on peut effectivement se trouver dans le collimateur, ce n'est pas toujours évident. Et je trouve que cette idée mérite discussion, surtout parce qu'on peut lire facilement que la Bible parle d'une certaine discipline physique. Et voilà, qu'est-ce qu'on fait avec ça aujourd'hui? Et ces questions restent encore complexe. Je pense dans le fond qu'il y a des raisons, des bonnes raisons pour une discipline physique, mais ces raisons, en principe, bénéficient les parents plus que les enfants. Mais ils ne sont pas anodins pour autant. Et le plus grand de ces raisons, c'est que si l'enfant a fait quelque chose de mal et le parent applique une discipline physique, donc il donne un tape sur les fesses ou quelque chose, Une fois que cette discipline est faite, la situation est réglée. Et autant le parent que l'enfant sont conscients que justice a été faite, c'est réglé, on passe à autre chose. Et cette définition-là est extrêmement utile. Une des difficultés de supprimer la discipline physique, et je ne suis pas contre, en fait, je suis pour l'idée de minimiser la discipline physique, mais un des problèmes de le supprimer, c'est qu'on le supprime sans savoir comment le remplacer. Donc, on laisse les parents dans une sorte de flou où, finalement, ils se sont désarmés, ils ne savent plus que faire, et finalement, la situation devient désagréable. Donc, je trouve qu'on a besoin de réfléchir un peu, parce qu'effectivement, on peut très bien, on sait très bien, les parents qui ont pratiqué, on peut exercer une discipline physique sur un enfant. Ce n'est pas la force de la frappe qui fait l'effet, c'est l'effet qu'il y a quelque chose de concret qui se passe. Donc l'enfant peut être bien en pleurs pour une toute petite tape qui ne fait pas du tout mal. Donc on est tous contre un abus physique au niveau des enfants. Là, on a tous un problème avec ça. On ne veut pas voir des enfants battus. En même temps, il y a certaines situations où pour l'enfant, effectivement, il est quelque part très concret dans sa manière d'être. Et le fait qu'il y a une sorte de conséquence qui pourrait aussi être physique n'est pas, dans le fond, à mon avis, une mauvaise chose. Voilà, on a réussi, c'est bien. Non, c'était pas ça. Presque. Je vais réessayer. Peut-être quelqu'un d'autre va me donner un hug. Donc, je pense que au niveau de cette discipline physique, il faut faire attention, mais il faut vraiment sonder en disant, voilà, c'est quoi l'utilité. Et c'est clair qu'un parent qui discipline en colère, non, ce n'est pas une bonne chose. Ce n'est pas utile ni pour le parent ni pour l'enfant. Par contre, est-ce que comme parent, on est en colère? Qu'est-ce qu'on fait avec notre colère? Comment est-ce qu'on va le gérer? Qu'est-ce qu'on va faire? Tout ça sont des questions à poser pour que l'enfant ne souffre pas de notre colère, mais peut être discipliné pour son propre bien. Je vois que la concurrence est rude ici. Ça, c'est le jeu favori des enfants. Si je cours quelque part, j'ai papa ou maman qui me courent après et qui me prend dans les bras. Et c'est très agréable, j'aime ça. Donc, le moment où il me pose, je cours ailleurs encore, n'est-ce pas? Parce que c'est un bon jeu, j'aime ça. Oui, tout à fait, absolument. Et donc, ça nous démontre l'importance de cette question de contact. Voilà, je peux aller jusqu'à la limite et je suis recherché, je suis pris, je suis aimé. Tout ça, c'est agréable pour l'enfant. Donc, ce n'est pas étonnant qu'il va le répéter le plus grand nombre de fois possible, n'est-ce pas? C'est clair. Bien. Bon. Encore un commentaire. Alors, selon la situation, ça pourrait être possible dans le sens qu'un enfant, par exemple, si on habite dans une situation où c'est impossible juste de marcher avec l'enfant sans que l'enfant est en danger, à un moment donné, peut-être on considère pour la sécurité de l'enfant de faire quelque chose d'un peu plus solide. Moi, je connais une famille où effectivement, ils ont perdu un enfant parce qu'à un passage piéton, l'enfant a tiré sa main et couru pour être frappé sur le passage. Donc, la moralité, on n'est jamais assez prudent quelque part. Et parfois, on peut, en montagne ou en ville même, curieusement, on peut avoir des situations où finalement, c'est juste impossible, surtout si on sait qu'on a un enfant qui est un peu téméraire, qui a tendance à aller un peu partout. On dit, mais voilà, il faut faire quelque chose d'un peu plus solide. Mais c'est clair que c'est une précaution pour une situation. On ne veut pas un enfant, on laisse tout au long de la journée, ce n'est pas le but.
Oui.
Oui, oui. Oui, c'est ça. Oui. Voilà.
Oui.
Oui. Oui. Il faut trouver une astuce quelque part, sans brimer l'enfant. Oui. La foule, là, ça fait peur, hein, je suis d'accord. Oui, tout à fait. Oui. Oui, exactement. Oui. Oui. Oui, absolument. Oui, il existe aujourd'hui des appareils tout simplement Bluetooth où si l'enfant s'éloigne, ça bip. Donc, on sait assez rapidement qu'il était plus que quelques mètres. Et voilà, je trouve qu'il y a une utilité à ça. Oui. Oui. Donc, oui, bon, l'enfant, quelque part, on ne sait rien. À un moment donné, tu lui équipes et voilà. Oui. Oui. Oui, oui. Bon, on va parcourir ce dernier partie. Question d'amour et de respect. Je pense que certaines choses, voilà, on a déjà dit et vous le savez bien. Voilà, l'idée de communiquer avec les enfants. L'amour inconditionnel, c'était, je sais pas, la séance 2 ou 3 qu'on avait parlé des langages d'amour, de savoir un peu comment l'enfant est capable de recevoir bien ce sentiment d'être aimé. Et je trouve que ça, c'est important. Et donc, c'est clair qu'on a besoin d'imaginer, voilà, quels sont les besoins de l'enfant et comment est-ce qu'on peut adresser ses besoins et de garder une harmonie dans la situation, tout le long de la situation. Ça, c'est aussi important. Les enfants, ils ont besoin de comprendre comment socialiser en famille. C'est l'endroit pour apprendre, en même temps qu'un enfant qui a moins de 2 ans et demi ou même 3 ans peut très difficilement comprendre véritablement la socialisation. Ils vivent dans un sens, voilà, d'abord, c'est une sorte de fusion entre lui et sa maman surtout. Donc, il ne fait pas véritablement la distinction. À un moment donné, il commence à devenir conscient qu'il est un être individuel et la maman n'est pas uniquement une machine qui donne de la nourriture ou quelque chose qu'il a besoin, mais c'est aussi une autre personne. Donc il passe cette étape et après, s'il a de la chance d'avoir un père à la maison, ils peuvent être conscients que voilà, ça c'est encore quelqu'un d'autre qui fonctionne autrement et il devient conscient finalement qu'il y a une sorte de relation qui se passe aussi entre papa et maman. Et à un moment donné, ça peut poser des problèmes émotionnels, syndrome d'Oedipe, etc. Où finalement, voilà, il y a une jalousie de l'enfant envers un ou l'autre des partenaires dans le mariage. Donc voilà, il progresse et finalement il arrive à un sens de socialisation, partage, etc. où il doit pouvoir le faire en ayant du plaisir avec le partage et la générosité et pas en sentant qu'il est quelque part maltraité ou injustement privé des choses. Donc c'est un peu comme ces deux enfants qui jouaient avec le camion et donc ils bagarraient pour chacun voulait le camion et la maman arrive, elle dit mais franchement si Jésus était là Alors, qu'est-ce que lui dirait au sujet du camion? Je pense qu'il dirait, c'est OK, Joe. Toi, tu joues d'abord avec le camion. Donc, les enfants écoutent. Et l'aîné, il réfléchit, il dit, ouais, écoute, toi, tu fais Jésus. Donc, la socialisation pour l'enfant, c'est un long apprentissage, mais la famille, c'est effectivement le meilleur endroit où on peut l'obtenir et l'expérimenter. Et donc, dans tout ça, voilà, on a une question de respect des autres qui reste important. Et tout ça, c'est encore une de ces valeurs qu'on a parlé. Et aussi la question de relation au niveau de Dieu. Donc, on est en relation avec les parents, avec les frères et sœurs, et quelque part, il y a Dieu dans l'image. Et dans un sens, pour un enfant qui grandit dans une famille qui respecte, qui prie, qui reconnaît, il ne va jamais vraiment dire à un certain moment, j'étais conscient que Dieu existait. Il va dire, mais j'étais toujours conscient que Dieu existait. C'était partie de ma manière de réfléchir. Et c'est bien de faire comme ça. Et donc, on peut faire des choses en famille qui aident les enfants à effectivement comprendre pas uniquement la famille, mais le monde externe. Donc, on peut les impliquer à un moment donné dans certains projets, de s'intéresser, par exemple, à un enfant à soutenir quelque part dans le monde ou de faire quelque chose pour une situation de difficulté, par exemple, pour un voisin qui tombe malade ou d'aller faire des achats pour quelqu'un de plus âgé autour de la communauté. Il y a des choses qu'on peut faire et même de les amener ailleurs pour faire des choses ensemble en famille. Je trouve que c'est très fort. Nous avons souvent pendant l'été, chercher des occasions d'aller faire quelque chose en famille avec les enfants. Donc, ça pourrait être, par exemple, on est une fois dans un orphelinat pour travailler, un autre été, on était pour faire de la peinture dans un centre, dans un étude, en train de peindre des murs ensemble pendant la journée. Différentes choses où on pouvait tout simplement aller et chacun trouver sa manière de servir, de faire et de faire ensemble. Et on avait trouvé ça particulièrement bénéfique. C'était pas exactement des vacances, si on veut, entre guillemets, mais l'effet au niveau de la famille et au niveau de la conscience de l'enfant, que c'est possible d'aller, de donner et d'être utile à quelqu'un d'autre, était très, très fort, très positif. Et je crois que là, ils ont gardé beaucoup de bons souvenirs, finalement, de ces choses. Donc, on est conscient que comme parents, nous ne sommes pas des amis, quelque part, de nos enfants. Ce n'est pas exactement la même chose. On aimerait un jour, une fois qu'ils sont grands eux-mêmes, que le maximum possible, on pourrait être des amis, même que peut-être ce n'est pas vraiment possible. Je ne sais pas si nous ici, nous considérons nos parents en étant des amis. Voilà, certains peut-être oui, des autres pas tellement. Mais ce serait bien que finalement il y ait un échange adulte à adulte et un certain respect, accompagnement qui se passe au niveau des enfants. On souhaite ça, mais au départ, on n'est pas des amis, nous sommes des parents. Donc, nous sommes les gardiens des valeurs, les gardiens des limites et les personnes qui poussent l'enfant à aller plus loin. N'est-ce pas? Ça, c'est notre responsabilité. Notre première responsabilité, véritablement, c'est d'assurer que nos enfants réussissent au-delà de ce que nous, on a pu faire. Donc, on veut les pousser plus loin. On veut, quelque part, les conseiller, les aider, les mettre en face des choses, les donner des expériences qui les aident à aller encore plus loin de ce que nous avons fait. Et ça, c'est bien. Et donc, finalement, il y a un respect dans le cœur qui va grandir pendant qu'on garde humblement, quelque part, notre position de parent faillibles, et on garde une amitié avec eux, et gentiment, ça grandit. Je suis parfois étonné de voir les conversations qui reviennent de nos enfants, de se rendre compte que voilà, il y a une certaine amitié, une certaine confiance là. Et c'est la même chose si on a une famille avec différents frères et sœurs, c'est aussi bien. Aujourd'hui, nos familles ont tendance d'être plus ou moins restreintes. Donc, on trouve bien des familles avec un seul enfant, parfois deux. Et maintenant, si on a déjà trois enfants, c'est considéré comme une famille nombreuse. Et finalement, trois n'est pas énorme. On a besoin d'une interaction même au-delà de ça. Donc, si on a la possibilité d'avoir un plus grand groupe, je trouve que ça, c'est toujours bien. En même temps, de garder l'idée de noyau famille, c'est aussi bien, c'est en harmonie. La famille nucléaire, comme on le décrit, je ne suis pas convaincu que c'est le meilleur modèle si c'est que ça. On a besoin de quelque chose de beaucoup plus élargi qu'une famille nucléaire pour donner une ambiance saine à l'enfant. Mais notre petite famille noyau nucléaire a une pertinence pour l'enfant qui compte véritablement pour quelque chose. Effectivement, on a besoin de pouvoir le protéger. C'est utile. Donc, toutes ces relations, on les construit, on les travaille. C'est dans la famille que finalement on apprend à écouter, on apprend à soutenir, on apprend à pleurer ensemble, on apprend à donner quelque chose. Tous ces éléments-là sont effectivement à l'intérieur et ça crée nos codes sociaux relationnels. Et on observe très bien qu'entre deux familles, on a construit deux cultures qui peuvent être bien différentes. Donc, certaines familles grandissent avec une plus grande sensibilité au niveau de comment aider quelqu'un que des autres. Dans certaines familles, on voit bien, le moment qu'il y a un qui souffre quelque part, tout le monde va courir pour aider, soutenir. Et des autres familles, on a un qui souffre et les autres disent, bof, ça va aller, voilà, on verra ça. Donc, on a des modes d'emploi différentes. Mais bon, on peut effectivement continuer toujours d'encourager ce type de fonctionnement et de dire, voilà, comment est-ce possible de dire, OK, on fait ça pas uniquement nucléaire, mais on essaie de l'agrandir aussi. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais vos enfants, ils ont normalement envie d'inviter des autres à la maison. Donc, si on dit, mais voilà, on va faire du pop-corn ce soir, ils vont dire, ah oui, je peux inviter mes amis. Donc, ils ont ce sens de dire, voilà, on aimerait quelque chose qui accueille plus largement. Et si c'est possible, je trouve que c'est bien. Je trouve que c'est bien. En plus, tu sais, comme parent, aujourd'hui, tu as meilleur temps d'avoir les enfants des autres chez toi que tes enfants font ce que tu ne sais pas chez les autres. C'est clair, hein? C'est clair. Donc, si la maison est un endroit où finalement on peut inviter nos amis, ça aide énormément. C'est quelque chose de vraiment valable. Et donc, effectivement, on peut les encourager d'être reconnaissants, de faire des choses qui vont bien dans ce sens. Qu'est-ce qu'on sait des amis de nos enfants? Parfois, les parents, ils savent très peu. Et c'est dommage. Et donc, un des défis de nous comme parents, c'est d'être quelque part conscient qu'on sait les noms des amis de nos enfants, certaines choses sur eux, certaines choses qu'ils font, certains loisirs qu'ils font, etc. Tout ça, c'est utile pour cette relation, effectivement, même de dire, OK, très bien, tu as certains amis, mais est-ce qu'il y a des personnes dans ta classe ou dans l'entourage qui n'ont pas beaucoup d'amis? Aujourd'hui, par exemple, on poserait la question, Est-ce qu'il y a un étranger ou un réfugié ou quelqu'un qui est arrivé ces derniers mois dans la classe ou où tu es ou autour, où on pouvait aussi dire, mais viens faire un jeu avec nous, manger quelque chose avec nous. Ce type de les pousser à être inclusives, c'est un très bon réflexe. Et ce n'est pas toujours un réflexe qu'on a tout naturellement. Donc c'est bien de l'envisager un peu, mais en le faisant, on agrandit le cœur de notre enfant, n'est-ce pas? On lui fait se rendre compte qu'il peut, avec relativement peu d'efforts, être une vraie bénédiction pour quelqu'un d'autre. Oui. Oui, mais ils ne sont pas tous des amis de l'enfant. Oui, mais... Oui, mais il parle, le nom c'est important, il parle de quelqu'un, c'était qui? Voilà, il va nommer 5 ou 6 personnes, probablement maximum, qui sont... Oui. Oui, mais... Non, tu ne sais pas toutes les personnes qui côtoient. Tout à fait, même pour lui c'est difficile. Il ne connaît pas tout le monde forcément dans la classe. Mais il a certains amis. Et moi, je suis relativement étonné en parlant avec des parents, et voilà, vous faites le test vous-même, hein, à quel point on connaît les noms des amis de nos enfants. Parfois, on connaît peu de choses comme parents. Et donc, effectivement, s'ils ont des amis, on peut aussi prier pour ces amis. C'est possible, hein? C'est quelque chose qu'on peut imaginer en famille, de dire voilà, tel et tel, voilà, on prie pour lui, et pourquoi pas. Je trouve que c'est un bon exercice qui nous aide à fonctionner. Donc, dans toutes ces différentes activités, si possible, ce que j'aimerais, c'est que notre foi devient quelque chose de naturel et pas quelque chose de religieux. Qu'on va pas à l'église parce que c'est une activité religieuse qu'il faut faire. On va à l'église parce que ça fait une partie naturelle de notre vie, notre réseau, l'expression de notre foi, et c'est normal. Donc, de telle sorte qu'une fois que les enfants peuvent choisir eux-mêmes, ils vont continuer. C'est quelque part détendu. Ça semble naturel pour eux. Et la question de la foi reste naturelle en eux. Alors, pour nous comme parents, dans tout ce parcours, on a besoin de 2-3 astuces. Le premier, c'est de prendre confiance en nous-mêmes. Vous êtes probablement un meilleur parent que vous pensez. On a bien des fois la tendance à dire « j'ai dû tout avoir fait faux, ça ne va pas, les résultats ne sont pas bons. » Typiquement, cette réflexion n'est pas utile. Hein. C'est une question de dire « ok, je peux avoir confiance en moi ». Et ça, c'est important. Et finalement, même dans le sens de notre mariage, si on est marié, voilà, l'important, c'est vraiment aussi d'être la bonne personne pour l'autre. Ça, c'est une contribution importante au niveau de la famille. Et de prendre soin de notre couple, c'est probablement la première chose, le premier cadeau d'importance qu'on peut faire pour nos enfants. C'est trop vite fait d'imaginer qu'on n'a plus de temps et sans se rendre compte, les enfants deviennent le centre de toutes choses à l'intérieur de la famille. Et en fait, on ne les fait pas un service avec ça. Ce qu'on veut, c'est que notre couple reste solide et valable. Donc voilà, d'investir dans le mariage, de prendre du temps, et de faire des choses qui construisent le pardon, le contact, la possibilité d'avoir un moment ensemble comme couple, de donner ça comme une priorité. Toutes ces choses-là sont vraiment très valables. Et comme ça, on peut cheminer ensemble et finalement, on donne un cadre sécurisant pour l'enfant. Ça semble bizarre de dire, voilà, on ne va pas passer du temps avec l'enfant parce qu'on va passer du temps en couple, mais à un moment donné pour l'enfant, de comprendre que lui, il est en deuxième priorité après vous, comme couple, en fait, ça donne de la sécurité. On ne pense pas comme ça tout de suite. On pense, voilà, on doit donner la priorité à l'enfant. Mais en fait, non, ce n'est pas toujours comme ça. Il a besoin de savoir qu'en fait, il a une place. Il a une place dans l'ombre de la sécurité de vous au niveau couple. On a besoin d'avoir confiance dans notre parentalité et dans ce sens-là, d'être à jour avec nos convictions. Une des raisons pour lesquelles on dit une chose et on fait une autre, c'est qu'on n'a pas vraiment fait la paix dans nos têtes de ce qu'on pense et de ce qu'on croit. Et en conséquence, on dit ce qu'on pense est bien, mais finalement, on ne le fait pas parce qu'on ne le croit pas. Donc, on a vraiment besoin de se détendre, s'aligner, écouter nos consciences et dire, voilà, je vais être quelqu'un de entier, de transparent. Et comme ça, je peux effectivement le maximum vivre ce que je crois et de le faire. On a besoin d'avoir confiance dans nos méthodes de discipline. Si vous mettez des limites et vous n'êtes pas convaincu, ça ne va pas marcher. C'est une conversation que parfois on a eue à la maison où mon dialogue avec ma femme, c'est que moi, je peux difficilement discipliner les enfants pour quelque chose que toi, tu les as imposé. Et si tu ne le partages pas complètement, ça, c'est compliqué. Donc, on a véritablement besoin de dire, OK, bien, alignons les peu de choses qu'on fait et d'avoir confiance en ça, parce que le fait qu'on est totalement confiant dans la façon de faire, vous n'allez pas faire du mal. Même, je pense, hein, je dis ça un peu dans l'extrémité, mais même si vous pensez qu'effectivement, la meilleure manière, c'est d'exercer régulièrement une discipline physique pour votre enfant, si c'est votre conviction de fond, je doute que vous ferez des dégâts. Par contre, si vous le faites moitié convaincu, probablement, émotionnellement, on fait des dégâts. Donc, on a besoin d'être assis, d'avoir confiance. Et une fois qu'on a confiance, qu'est-ce qu'on trouve? On a beaucoup moins besoin d'exercer une discipline forte qu'on pensait. Parce que l'enfant va ressentir notre position. Il sait que c'est solide, qu'on croit à ça. Et ça se transmet assez facilement. Nos méthodes de discipline sont qu'une réflexion de ce qu'on croit. Et évidemment, une des manières de transformer la vie de nos enfants, c'est de prier pour eux. Prier pendant qu'ils dorment, prier avec eux. Voilà, on peut effectivement voir que Dieu agit à l'intérieur de nos enfants. Ils ont des peurs, mais voilà, on prend du temps pendant qu'ils sont en train de dormir de prier pour eux. On peut faire un changement dans ce sens-là. Et pour revenir et faire le boucle, finalement, on garde en tête qu'est-ce qu'on aimerait que ma famille va devenir. Quelle est la vision que j'ai? Est-ce que j'arrive à l'écrire? Alors, je profite dans ce livre, dans le fascicule, il y a à la fin une petite question là, au niveau des visions, mais à la page 40, il y a une erreur, et je vous le signale. Les pages 40, choses importantes pour notre famille. Le troisième écrit, maman et papa ne doivent pas inviter les enfants. C'est faux, je ne sais pas comment ce mot est atterri là, mais ça doit lire, ne doivent pas provoquer les enfants. D'accord ? Ça fait beaucoup plus de sens, n'est-ce pas ? C'est page 40. Donc, exactement, c'était peut-être ça. Qui sait? Je ne sais pas comment c'était glissé là-dedans. Donc voilà, à un moment donné, peut-être même, pour certaines familles, pour certains couples, on a besoin de rêver, d'imaginer, même d'écrire certains mots au niveau de notre vision. Où est-ce qu'on veut? Quelles sont les valeurs? Si vous pouvez écrire 4 valeurs de base qui étaient importantes pour votre famille, ça serait quoi? Si vous pouvez écrire 2 comportements que vous aimeriez voir vraiment reproduits chez vos enfants, quels seront ces comportements? Si vous pouvez imaginer une façon qu'au niveau famille, vous pouvez fonctionner ensemble, quel mot ou quelle description pourrait nous donner une piste de savoir quelle est la vision, quel est l'endroit où on veut aller? Et notre famille par rapport aux autres à l'extérieur, on aimerait qu'on ait vu comment. Si on pouvait mettre les mots dans la bouche des autres, les autres qui disent « Ah voilà, je regarde la famille telle et telle, pour moi c'est une famille », qu'est-ce qu'ils vont dire de nous? Qu'est-ce qu'on aimerait qu'ils disent de nous? Est-ce qu'il y a quelque chose que nous pouvions faire pour vraiment générer et créer ça? Donc ça c'est l'idée de dire « Voilà, où est-ce qu'on va ?» On ne va pas l'accomplir cette semaine, ni peut-être complètement cette année, mais on l'a en tête, on travaille pour ça. Quelques principes simples, et on les utilise. Bien, je vais arrêter là. On va peut-être boire le café 10 minutes, et ça nous donne un petit 3/4 d'heure pour rassembler. Il me semble qu'on est en train de perdre des gens au fur et à mesure ici, mais peut-être on va faire 2 groupes après. Pour 3/4 d'heure pour finir. Ça vous va? Très bien. Quelqu'un, un commentaire ou quelque chose à dire après tout ça? Non? C'est OK? Très bien.
OK. Au café.